les enfants de Chronos.
Philippe Papet, professeur d'histoire, longtemps enseignant à Creil et à Senlis, et donc spécialiste, si on peut dire, des rapports entre les catholiques et leurs adversaires entre 1870 et 1914. Précisons d'emblée que notre étude ne portera que sur le Valois de l'Oise, c'est-à-dire le canton de Crépy, et l'essentiel des cantons de Bay et de Nanteuil, tous relevant de l'arrondissement de Senlis. Quant au terme « terre de mission », il se justifie par le fait que nous sommes en 1870, et même bien avant, dans des secteurs peu pratiquants, semblables en cela à beaucoup d'autres cantons de l'Oise, comme ceux de Neuilly-en-Thelle ou de Creil, pour rester dans l'arrondissement de Senlis. Alors, on constate cette indifférence en lisant les rapports que font les prêtres à leur évêque, rapports donc annuels, qui soulignent régulièrement le manque de piété et même l'indifférence générale dans ce vieux pays de Valois. La pratique dominicale est partout faible, jamais supérieure à 12% de la population. On ne trouve dans aucune paroisse, en 1875, un taux de messalisants, comme l'on dit, de pratiquants le dimanche, supérieur à 12%. Par exemple, à Crépy, l'abbé Torel ne recense que 200 messalisants pour plus de 2000 habitants. On ne compte que 30 fidèles à Vaumoise pour 480 habitants, 5 à Rosières pour 148 résidents, 8 à Boulard, guère plus à Brégy. En plus de cette faible pratique, les prêtres constatent l'absence quasi générale des hommes à l'office. Il n'y a guère que les femmes et les enfants qui vont à la messe dominicale, les hommes ne venant qu'aux cérémonies familiales. Les comptes rendus des desservants déplorent aussi l'abandon de toute pratique religieuse des enfants après leur communion solennelle. Ils déplorent également les baptêmes tardifs, notamment à Glaigne, à Ormoy-Villers, à Mareuil-sur-Ourcq. On constate aussi la totale légèreté de la jeunesse, encline au plaisir, je cite les rapports des desservants, peu soucieuse de vie spirituelle, sans compter l'effronterie des adolescents et, je cite aussi parce que c'est quand même significatif, la cupidité des plus anciens. Sont également recensés dans les rapports des prêtres aux évêques le nombre sans cesse croissant d'unions civiles, de concubinages notoires, de banquets de libres penseurs, le manque de tenue lors des cérémonies religieuses à l'église, et aussi, ça c'était à Brégy, le mauvais exemple des parents qui contredisent systématiquement le curé de peur de voir leurs enfants devenir trop religieux. Alors évidemment, dans ces conditions, on se rend compte que les vocations religieuses dans l'arrondissement sont extrêmement rares dans ces années 1870-1900. Ce qui fait que beaucoup de desservants qui ont en charge des paroisses du Valois ne sont pas des natifs ni du Valois, ni de l'Oise, ni même souvent de Picardie. Il faut chercher des desservants dans des provinces parfois proches de la nôtre, comme l'Artois et la Flandre, mais aussi, bien plus loin, beaucoup de desservants viennent de Bretagne, du Maine, et bien sûr, parce que c'est une région où il y a beaucoup de desservants traditionnellement, l'Auvergne. Alors évidemment, ces prêtres qu'on peut qualifier d'exilés ne sont pas toujours en phase avec les mentalités et les pratiques des villages du Valois. Alors, évidemment, l'appel à ces desservants extérieurs, si l'on peut dire, a comme conséquence que beaucoup de paroisses se retrouvent sans desservants. Il n'y a pas assez d'arrivées extérieures pour pouvoir assurer la messe et donc les cérémonies un peu partout. Alors ça oblige à pratiquer ce qu'on appelle le binage. Le binage, c'est lorsqu'un prêtre n'a pas en charge, comme c'était le cas bien avant, une seule paroisse, mais qu'il a une, deux, voire trois paroisses dans les villages où il y a évidemment très très peu de messalisants. Alors évidemment, ça oblige les desservants à de pénibles déplacements à pied, mais ça offre l'intérêt qu'ils peuvent évidemment augmenter ce qu'on appelle le casuel. Le casuel, c'est ce que les desservants touchent pour des cérémonies particulières, baptême, mariage, etc. Donc plus on a de paroisses, plus le casuel augmente, en plus, naturellement, du salaire mensuel. Alors, du coup, comme il y a les binages rendus nécessaires par le manque de vocation, les évêques et leurs adjoints, qu'on appelle les vicaires généraux, nomment souvent dans les paroisses à binage de jeunes prêtres, qui naturellement sont plus à l'aise pour faire ces déplacements qui se font systématiquement à pied. Bon, ça n'aurait pas une grande importance, sauf à signaler que très souvent, lorsqu'un desservant vient d'un village voisin, il est mal accueilli par la population locale, parce qu'il y a toujours eu des petites querelles de clochers, des petites tensions. Et on trouve dans les rapports aux desservants traces de ces tensions, par exemple entre Perrois-Légombry et Boissy-Frénois, entre Vaumois et Vé. Le prêtre de Perrois-les-Gombry qui vient à Boissy-Frénois constate une certaine hostilité de la population parce que justement il vient d'un village voisin et souvent rival. Or donc, l'état des lieux est préoccupant. C'est vrai qu'il y a une faible pratique et qu'il y a une vraie indifférence religieuse. Alors ça peut paraître étonnant parce qu'en fait, les régimes politiques de l'époque étaient plutôt favorables à l'Église, notamment le Second Empire, qui, je vous le rappelle, a duré de 1851, enfin 52 officiellement, jusqu'en 1870. Napoléon III a été un soutien de l'Église catholique, même s'il a parfois contesté les intérêts pontificaux, notamment favorisant l'unité italienne. À l'époque, donc, il y avait un certain appui de l'État et des gouvernements à l'Église, mais bon, ça n'a pas duré. Dès l'instant où il y a eu la défaite, il y a eu un premier ralentissement de cette collusion entre le gouvernement et l'Église. Autre point qui pouvait peut-être rassurer l'Église, et les évêques bien sûr, en dehors de ce soutien de l'État jusqu'en 1870, c'était le fait qu'il y avait quand même une influence de l'Église dans l'éducation. Ça, c'est un point qui n'est pas négligeable. En effet, si on se place sur le plan scolaire, la dernière loi importante, c'était la loi de 1833, dite loi Guizot, qui était prise sous la monarchie de Juillet, celle de Louis-Philippe. Alors que dit cette loi, qui, pratiquement, est plus importante que la loi Ferry? Elle disait que toute commune était tenue d'ouvrir une école. Et donc, il y avait une possibilité pour tous les enfants, de quelque milieu qu'ils soient, d'aller à l'école et d'apprendre les enseignements fondamentaux. Et rien n'obligeait à ce que les instituteurs et les institutrices soient des laïcs. Ce qui fait que les congrégations, très souvent, s'installaient dans les villages pour assurer l'enseignement primaire public. Et on avait donc dans les villages du Valois différents ordres religieux, différentes congrégations qui assuraient cet enseignement aux élèves des différents cantons du Valois, Bé, Nanteuil ou Crépy. Citons les sœurs des écoles chrétiennes à Bédizy-Saint-Pierre, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny à Crépy, les sœurs de Saint-Aubin à Bé, à Brégy ou Ermenonville. Donc il y avait cette présence congréganiste forte dans l'éducation, et je le rappelle, bien sûr dans l'enseignement catholique, mais aussi dans l'enseignement public. Les choses changeront avec les lois Ferry. Donc c'est important de le rappeler, la loi fondamentale d'alphabétisation du pays et du Valois, ça a été cette loi Guizot de 1833. Rendons à la monarchie ce qui lui revient. Alors donc un contexte qui était encore à peu près correct jusqu'en 1876. Et là, en 1876, les choses changent parce que le contexte politique change. En effet, jusqu'en 1876, c'était plutôt des partis conservateurs qui dirigeaient le pays. De 1852 à 1870, le Second Empire. Après 1870, les royalistes. En effet, rappelons qu'après la défaite contre la Prusse en 1871, il y avait eu des élections générales, des élections constituantes, et que ces élections constituantes avaient donné une large majorité au suffrage universel aux candidats royalistes. Malheureusement pour eux, ces monarchistes n'ont pas réussi à s'entendre sur qui serait le prétendant qui deviendrait roi. Il y avait une dispute entre différentes factions royalistes, les légitimistes et les orléanistes, ce qui fait que de leur dispute est née une sorte d'impossibilité de rétablir la monarchie. Et les républicains, lentement, se sont réémissés dans le pays et ont réussi à gagner les élections de 1876. Alors ces républicains, on les connaît, c'est Gambetta, c'est Ferry, c'est Jules Grévy, le futur président. Et ce sont ces républicains, des républicains modérés, mais laïcs. C'est important parce que cette laïcité dont ils se prévalent, c'est un petit peu leur principal thème fédérateur. Ils sont divisés sur bien des points, mais il y a un point d'ancrage de tout le camp républicain, c'est cet attachement à la laïcité. Alors, on définira peut-être plus tard la laïcité. Ce qu'on peut en dire tout de suite, c'est qu'il ne faut pas se méprendre sur le terme, surtout aujourd'hui, où on pense que la laïcité, c'est la tolérance. C'est pas ça du tout. La laïcité, c'est très simple, c'est la non-intervention de l'État dans l'espace religieux et la non-intervention du religieux dans l'État. Voilà, c'est la séparation entre ce qui relève de l'Église et ce qui relève de l'État. C'est tout, c'est simplement ça. Donc c'était des laïcs. Alors, ces républicains sont relayés dans le Valois par des personnalités fortes. Je vais en citer deux qui vont jouer un rôle important dans l'organisation, l'animation du camp républicain, en gros de 1875-80 jusqu'en 1910, même au-delà. Alors le premier, les habitants de Crépy le connaissent bien, c'est Gustave Chopinet. Alors Gustave Chopinet, né en 1847, est un ancien séminariste, comme beaucoup d'anticléricaux notoires d'ailleurs, comme Émile Combes par exemple. Et il est aussi médecin, comme beaucoup d'autres républicains, comme par exemple Clémenceau ou Auguste Boudon, le futur député de Beauvais. Alors Gustave Chopinet, qui n'est pas natif de Crépy, s'installe dans le Valois, non pas pour faire vraiment office de médecin, mais pour se consacrer, se vouer à sa véritable passion, la politique. Il sera conseiller municipal en 1884, maire en 1888, cela pour plusieurs mandats successifs jusqu'en 1918. Gustave Chopinet, c'est le grand personnage de la Troisième République naissante dans le Valois. Son principal lieutenant sur place est moins connu, quoiqu'il soit également très intéressant, c'est Auguste Castellan. Alors Auguste Castellan, lui, est né dans le Valois, il est né à V en 1845. Lui aussi ancien séminariste, décidément, c'est un partisan, un propagateur zélé des idées de Rousseau. C'est un rousseauiste. Il est d'ailleurs la cheville ouvrière des commémorations du centenaire de la mort du philosophe en 1878. Agissant bien sûr à Ermenonville dans ce cadre. Alors, Auguste Castellan est un journaliste. C'est lui qui animera l'Écho républicain du Valois, journal donc du radicalisme local, du républicanisme résolu local. C'est un libre penseur et plus qu'un laïc, un anticlérical. D'ailleurs, Castellan acquérera dans la vallée de l'Automne une demeure ancienne qu'il aménagera en accentuant toutes les ressemblances possibles avec les Charmettes près de Chambéry, où Jean-Jacques Rousseau vécut les plus belles années de sa vie. Castellan donnera ainsi le nom même des Charmettes à sa maison de Larny.